Dimanche prochain, 22 novembre, nous célébrerons la fête du Christ, roi de l'univers. À cette occasion, nous vous proposons une méditation enregistrée le 11 octobre 2020 au sanctuaire de Notre-Dame de Buglos lors d'une récollection de la communauté de l'Emmanuel, Pays Basque et Landes. Cette méditation est proposée par Xavier Miura autour de ce verset de l'Évangile selon Saint Jean chapitre 19 verset 28 « J'ai soif ». Écoutons cette méditation proposé par Xavier Miura.
Donc, comme vous le savez, le thème annuel de notre province est l'union en Christ. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous allons réfléchir et méditer autour de la parole de Jésus sur la croix, « J'ai soif », dans Jean chapitre 19, verset 28. Donc, avant d'arriver à cette parole de Jésus sur la croix, nous pouvons nous laisser éclairer par un autre passage de l'Évangile où Jésus exprime cette même soif. C'est le passage de Jean chapitre 4, où Jésus parle avec une femme samaritaine venue puiser de l'eau au puits de Jacob. Nous allons lire ce passage.
Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi ? Un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ? En effet, les juifs ne fréquentent pas les samaritains. Jésus lui répondit : Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ? C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit : Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. »
Ce qui est intéressant, c'est qu'au premier abord, nous croyons que Jésus parle du besoin physique de la soif, et certainement que son corps réclame de l'eau, parce qu'il est écrit qu'il était fatigué par la marche depuis la Judée, et qu'il est la sixième heure, donc environ midi. Mais en écoutant tout le reste de ce passage de l'Évangile, on se rend compte que Jésus parle d'un point de vue spirituel. La femme samaritaine croit d'abord à une demande physique, et très vite elle se laisse conduire par Jésus à considérer les choses d'un point de vue spirituel, même si elle oscille encore entre le physique et le spirituel quand elle dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus jamais soif, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » En lisant le passage, nulle part il est dit que finalement Jésus a bu ou que la femme lui a donné de l'eau. Même la femme laisse sa cruche sur place. Elle laisse de côté la mission vitale d'un point de vue physique, pour laquelle elle était venue, pour avertir ses proches qu'ils vont pouvoir venir écouter et puiser à une source qu'elle a découverte en Jésus. Au verset 28 et 29, la femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? Tout aussi surprenant, nous lisons plus loin au verset 31 et 34. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc en Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme, les besoins spirituels sont infiniment plus importants que ses besoins physiques, qui sont pourtant très réels aussi. Le passage de l'échange des apôtres avec Jésus pourrait presque sembler une provocation du Christ envers ses apôtres, qui sont allés exprès chercher de la nourriture en ville pour lui et pour eux. Et pourtant il n'en est rien. Et c'est surprenant de contempler Jésus pratiquer une sorte de jeûne spontané pour la mission qui débute auprès de la femme samaritaine et de tout son village qui va aussi se laisser toucher. Versets 39 à 42. Beaucoup de samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons nous-mêmes. Nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Je voudrais maintenant souligner un paradoxe qui apparaît dans le discours de Jésus, qui a un paradoxe très profond en lui, et la compréhension de ce paradoxe peut nous aider à mieux connaître le cœur même de Dieu. D'un côté, Jésus dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire. » Et de l'autre, il lui dit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » On pourrait résoudre hâtivement ce paradoxe en se disant que la parole « Donne-moi à boire » est une forme d'entrée en matière du Christ envers la Samaritaine. Pour parvenir au discours le plus important, il révèle que lui, le Christ, est la vraie source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. En réalité, ces mots « Donne-moi à boire » du Créateur envers une créature pécheresse sont tout aussi profonds que les paroles suivantes de Jésus, où il révèle qu'il est la vraie source. Ils sont d'autant plus importants qu'ils se répètent sur la croix, au sommet même du don du Christ pour nous, quand il dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 28, « J'ai soif ». « J'ai soif », ça équivaut à « Donnez-moi à boire ». Jésus parle-t-il de la soif physique sur la croix? On pourrait le croire. En effet, Jésus n'a probablement pas bu depuis la scène, la veille au soir. Il a par ailleurs été flagellé et couronné d'épines. Cela lui a fait perdre une grande quantité de sang, de son corps et de la tête. La tête, ça saigne beaucoup. Après une grande hémorragie, on a extrêmement soif. De plus, Jésus a fait un grand effort en portant une croix, bien trop lourde pour un mourant. Et il a été crucifié à midi, l'heure la plus chaude de la journée. Pourtant, Jésus ne parle pas de la soif physique extrême que son corps ressent, ou du moins, il en parle pour exprimer une soif bien plus profonde. Jésus a dicté à Sainte Brigitte de Suède, sainte du XIIIe siècle, qui est proclamée copatronne de l'Europe par Saint Jean-Paul II, 15 oraisons dans l'église Saint-Paul à Rome pour que les âmes honorent chacun des 5480 coups qu'il a reçus pendant sa passion. Et dans la 7e oraison que Jésus invite à prier, Il revient sur sa parole « J'ai soif » qu'il a prononcée sur la croix. Et je vais vous lire le début de l'oraison qu'il a dictée. Ô Jésus, fontaine de pitié inépuisable, qui par une profonde affection d'amour avait dit sur la croix « J'ai soif », mais de la soif du salut du genre humain. Je vous lis pas la suite. Ô Jésus, fontaine de pitié inépuisable, qui par une profonde affection d'amour avait dit sur la croix « J'ai soif », mais de la soif du salut du genre humain. Dans cette oraison, la conjonction « mais » m'a beaucoup surpris au début. Jésus semble y écarter la soif physique, pour dire que cette parole « j'ai soif » qu'il a prononcée sur la croix n'était que destinée à manifester sa soif du salut du genre humain. En méditant ces paroles, j'ai finalement compris que Jésus ne se serait jamais plaint d'une soif physique si ce n'était pas pour dire quelque chose de bien plus profond. Si sa soif n'avait été que physique, Jésus en aurait souffert, comme toutes les souffrances physiques de sa passion, en silence. D'une certaine manière, quand on prend conscience de l'extrême soif physique de Jésus dans sa passion, et que l'on comprend que Jésus ne parle cependant pas de cette soif-là, on saisit que la soif spirituelle de Jésus est infiniment plus grande. Car la soif physique, même extrême de Jésus, vrai homme, est humaine et donc limitée. Alors que la soif spirituelle de Jésus, qui est aussi vrai Dieu, est divine, donc infinie. Donc reprenons l'oraison. Ô Jésus, fontaine de pitié inépuisable, qui par une profonde affection d'amour avait dit sur la croix « J'ai soif ». Constatez-vous, là encore le paradoxe, Jésus, la fontaine de pitié, dit « J'ai soif ». Comment une fontaine peut-elle avoir soif ? On revient au constat fait dans le passage où Jésus rencontre la Samaritaine. La clé de lecture de ce paradoxe se trouve dans les trois mots qui précèdent la plainte de Jésus dans cette oraison. Qui, par une profonde affection d'amour, avait dit sur la croix « J'ai soif ». Jésus a dit « J'ai soif » par une profonde affection d'amour. La fontaine d'affection et d'amour qu'est Jésus a soif d'être aimé. Jésus a soif de notre amour, bien qu'il soit rempli d'amour. En fait, il n'est lui-même qu'amour. Jésus, Dieu d'amour, à l'image d'une maman qui sera rejetée par ses propres enfants, une maman crucifiée intérieurement et aussi extérieurement par le rejet de ses enfants, a soif du moindre signe d'amour qui pourrait venir d'eux. Jésus, du haut de la croix, dit « J'ai soif ». J'ai soif que vos cœurs froids, indifférents, qui m'ont trahi, qui m'ont abandonné seul dans ma passion, qui m'ont flagellé par votre impureté, qui m'insultaient sur la croix, reprennent le chemin de l'amour, reprennent mon chemin, et que je puisse vous abreuver de mon amour. Jésus, pour obtenir ne serait-ce qu'un peu d'amour de notre part, pousse son propre amour à l'extrême de son humanité, à l'extrême de sa divinité. Ainsi, dans l'extrême douleur de son corps frappé, flagellé, couronné d'épines, percé dans les mains et les pieds, écartelé pour être fixé sur la croix, insulté, outragé, humilié durant toute sa passion, Jésus ne pense qu'à une chose. Nous. Pas une seule seconde dans sa passion, Jésus ne s'est regardé. Mais il nous regardait, nous, âme perdue et désespérée. Ainsi disait-il aux femmes de Jérusalem sur le chemin du calvaire dans l'Évangile selon saint Luc. Chapitre 23, versets 27 à 31. Le peuple en grande foule le suivait ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Jésus ne pense pas à lui. Il pense à nous, qui en offensant Dieu, en le tuant, faisons un péché de la plus grande gravité, de sorte que nous nous précipitons jusqu'à la porte des enfers pour l'éternité. Car si l'on traite ainsi le bois vert, que deviendra l'arbre sec ? Demande Jésus. L'arbre sec va brûler en enfer, et Jésus ne peut s'y résoudre. C'est de vous, de votre devenir, que vous devez vous inquiéter, pas de moi. Jésus, la fontaine de pitié nous plaint, et il a une soif immense de notre salut. Alors, bien que rempli de douleurs insoutenables, douleurs physiques de la tête aux pieds et douleurs spirituelles remplies d'amertume, bien qu'insulté sans cesse jusque dans son agonie sur la croix, Jésus se tourne vers le Père du ciel, son Père, son Papa comme il le dit sur la croix par le mot « Abba » et il lui adresse une prière pour nous. Une prière issue des entrailles de sa miséricorde. Une prière qui s'élève du cœur de Jésus brûlant d'amour pour chacun de nous, vers le Père. Une prière qui nous révèle que l'extrême de l'amour, le sommet de l'amour, de cet amour si atrocement rejeté par les hommes, c'est le pardon. Je vous lis un autre extrait d'une oraison de Sainte Brigitte, la quatrième. Souvenez-vous, Jésus, des langueurs et meurtrissures que vous avez souffertes en tous vos membres, dont aucun ne demeurera en sa place, en sorte qu'il n'y avait de douleur semblable à la vôtre. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, aucune partie de votre corps n'était sans tourment. Et cependant, oubliant vos souffrances, vous ne vous êtes point lassé de prier votre Père pour vos ennemis, lui disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et cependant, oubliant vos souffrances, vous ne vous êtes point lassé de prier votre Père pour vos ennemis, lui disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière de Jésus sur la croix, lui notre Créateur, est pleine de miséricorde pour les pécheurs que nous sommes, qui le persécutons à mort. Pour comprendre sa portée, nous pouvons revenir quelques jours avant la Passion, quand devant le tombeau de Lazare, son ami, qui est mort depuis 4 jours, Jésus prononce aussi une prière à son Père. Je vous lis le passage de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11, versets 41 à 44. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » « Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. » Donc quand Jésus, inondé d'un abîme de douleur physique insupportable, prit le Père en lui disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » la prière de Jésus est exaucée, car le Père exauce toujours la prière de son Fils. Pourquoi est-elle exaucée? Parce que Jésus est le Fils du Père, et en tant que Fils, il obéit et accomplit en tout point, jusqu'au supplice atroce de la croix, la volonté de son Père. Son obéissance absolue, quoi qu'il lui en coûte, apparaît le jeudi saint, au Jardin des Oliviers, quand Jésus assaillit d'une angoisse mortelle, prie en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Donc je le redis, quand Jésus prie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il est exaucé, et il s'opère à ce moment-là un basculement dans l'humanité. Désormais, tous ceux qui accueilleront la miséricorde de Jésus, miséricorde exprimée alors que l'humanité tuait Dieu lui-même, sont sauvés par pure grâce et par les seuls mérites de Jésus sur la croix. À cette heure, la miséricorde de Dieu surpasse sa justice. Et c'est pourquoi, nous qui sommes pécheurs, nous pouvons avoir pleine confiance en Jésus, qui dans de telles souffrances a réclamé pour nous la miséricorde du Père. Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi. La Vierge Marie, au pied de la croix, est profondément touchée par les paroles pleines de miséricorde de Jésus. Son cœur de mère, bien que souffrant terriblement des tortures, humiliations et insultes que les bourreaux infligent à son fils bien-aimé, entre humblement dans le même mouvement de cœur que le cœur miséricordieux de Jésus. Elle demande à Dieu miséricorde pour de si grands péchés. Elle suit son fils Jésus miséricordieux. Il est pour elle le chemin, son chemin, quoi qu'il lui en coûte. Presque tous ont abandonné Jésus, mais elle demeure très fidèlement auprès de lui jusqu'au bout, soutenue par Saint Jean et quelques femmes. Quant à nous, tout ce que Jésus a souffert par amour pour nous, à l'image du cœur transpercé de douleur de la Vierge Marie, quant à nous, tout ce que Jésus a souffert par amour pour nous doit, à l'image du cœur transpercé de douleur de la Vierge Marie, blesser profondément notre propre cœur et nous conduire à l'intérieur de nous-mêmes à une profonde contrition de nos péchés, à un désir de faire pénitence pour réparer tout ce que nous avons fait souffrir au Fils de Dieu. Nos péchés qui ont blessé profondément Jésus depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce même élan, rempli de confiance en la bonté de Dieu, cela doit nous conduire à nous jeter dans les bras de Jésus, étendu pour nous sur la croix. Jésus nous attend. Il a soif de nous faire miséricorde dans le sacrement de réconciliation et de nous sauver. Attardons-nous maintenant sur une caractéristique essentielle du vécu de Jésus dans toute sa passion. L'amertume. Quand Jésus dit « J'ai soif », que font les soldats? Ils lui amènent du vinaigre amer. Dans l'Ancien Testament, cette amertume de l'agneau de Dieu avait été annoncée. Nous lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 12, juste avant la fuite d'Égypte du peuple hébreu au moment où Dieu institue la Pâque. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Et un peu plus loin, On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. À Lourdes aussi, la Vierge Marie demande à Bernadette de manger l'herbe pour signifier l'amertume de la passion de son fils. Quelle est cette amertume de la passion? C'est d'abord l'amertume du Créateur qui a créé avec tant d'amour sa créature et quand il vient la visiter, se voit à ce point rejeté, torturé, haï, insulté, outragé, jusqu'à être mis à mort par lui. Enfin, il existe une amertume encore plus profonde en Jésus. Là aussi, je vous renvoie à une des oraisons de Sainte Brigitte, dictée par Jésus, la cinquième. Là, on nous fait bien comprendre cette deuxième amertume. Ô Jésus, miroir de splendeur éternelle, souvenez-vous de la tristesse que vous avez eue lorsque contemplant dans la lumière de votre divinité la prédestination de ceux qui devaient être sauvés par les mérites de votre sainte passion. Vous voyez en même temps la grande multitude des réprouvés qui devaient être damnés par leurs péchés et vous plaignez amèrement ces malheureux pécheurs perdus et désespérés. Jésus voit que malgré tout l'amour qu'il aura donné pour notre salut et toute sa souffrance, une multitude d'âmes va quand même se jeter en enfer. Ces âmes seront tellement endurcies que librement elles préféreront la torture éternelle de l'enfer. Cela est la cause d'une très grande amertume dans le cœur de Jésus. Jésus va tout donner pour elles. Ses forces épuisées, son corps déchiré, les entrailles de sa miséricorde ouvertes pour nous racheter, il remet humblement son esprit entre les mains du Père. Il expire. Dans le cœur de la Vierge Marie, transpercée de douleur, la souffrance est à son comble. Son fils bien-aimé, qui est Dieu lui-même, est mort torturé et sous les insultes. Qui consolera la mère de Dieu? Et pourtant, Dieu le Père, qui chérit son fils dans sa divinité et dans son humanité, jusque dans son corps adorable et pur, va consentir à un sacrifice plus grand encore, par pure miséricorde pour nous. Il conduit avec lui la Vierge Marie à un point extrême et ultime de souffrance et de sacrifice quand il permet qu'un soldat muni d'une lance arrive et transperce le côté de Jésus mort. Pour la Vierge Marie, c'est un nouveau traumatisme et cependant, elle sait au fond d'elle que tout ce qui se passe est enfermée dans la sainte volonté du Père. Elle sait que tout est œuvre de miséricorde de Dieu pour le salut des pécheurs. Elle est la première à accueillir dans la foi le sang et l'eau qui jaillit du côté de son Fils. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit de l'eau, du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Évangile selon Saint Jean, chapitre 21, versets 33 à 35. Par cette blessure, tout le sang de Jésus, tout le sang de l'agneau de Dieu immolé, va être versé pour l'humanité. il ne lui en restera plus une goutte. Du cœur de Jésus jaillit aussi l'eau, signe de l'Esprit Saint qui est donné au monde pour qu'il accueille le salut offert par Jésus-Christ. Donc c'est par pure miséricorde pour nous que le Père a permis que le corps de son Fils, tant torturé pendant la Passion, soit encore abîmé même après sa mort. Le Père a ainsi voulu que tout le sang de son Fils soit versé par amour de Dieu pour l'humanité. Il a voulu que l'eau jaillisse du côté ouvert de Jésus, signe de l'Esprit Saint, donné au monde, afin qu'il se convertisse à l'amour du Christ, son Rédempteur, et soit sauvé. Évangile selon Saint Jean, chapitre 4. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle.
J'ai soif, vous venez de suivre cette méditation de Xavier Miura sur ce verset de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, verset 28. Cette méditation a été enregistrée le 11 octobre 2020 au sanctuaire de Notre-Dame de Buglose lors d'une récollection de la communauté de l'Emmanuel, Pays Basque et Landes.